Et justement, si mon voisin de droite est quant à lui coutumier du territoire helvétique, il n'a rien perdu de son caractère latin, comme vous avez peut-être pu le ressentir. Moi, je l'ai ressenti avec cette proximité et ce profond désir de réagir à ce qui venait d'être dit. Et donc, je passe sans attendre la parole à Marcelo Cohen pour son exposé.
Merci. Merci, Pierre. Je vais essayer d'être influencé par les territoires sur lesquels j'habite et j'essaie donc de respecter les 15 minutes. Tout d'abord, je voudrais exprimer mon grand plaisir d'être de nouveau à l'Université libre de Bruxelles. La première fois que je suis venu ici, c'était il y a environ 13 ans, si ma mémoire est bonne, et je suis très très heureux de rencontrer mes collègues et mes amis. Je voudrais adopter une approche certainement différente de celui de mon collègue de droite. Je n'ai pas dit à droite. Non, pardon, à droite, et pas de droite. C'est-à-dire, je voudrais insister sur le fait que l'existence des États dans le droit international du XXIe siècle n'est pas une pure question de fait. C'est une question dans laquelle le droit international joue un rôle fondamental. Comme je sais que j'ai 15 minutes seulement, je vais tout d'abord faire une sorte de résumé de ce que je souhaite vous transmettre. Je pense que la question de la déclaration de la Palestine à propos de l'article 12, paragraphe 3 du statut de la Cour pénale internationale n'est pas la question fondamentale. Elle est importante, bien entendu, pour les conséquences qui en découlent, mais la vraie question que je souhaite en débattre, c'est la question de l'existence ou non d'un État palestinien. Alors, pour résumer mon point de vue, je veux dire, la création d'État dans le monde d'aujourd'hui est une question des faits et des droits. Premier point. Deuxième point, je pense que la Palestine n'est pas encore, je souligne encore, un État. Troisième point, la Palestine a le droit de devenir un État et a le droit de le faire d'une manière unilatérale. Les éléments des faits nécessaires pour l'existence d'un État palestinien sont là, à mon avis. La situation du Kosovo est entièrement différente de celle de la Palestine. Et finalement, je dirais, tout ce qui manque à la Palestine pour devenir un État, c'est que les dirigeants palestiniens sortent de leur ambiguïté et déclarent clairement qu'ils sont un État. À partir du moment où ils adopteront cette attitude claire et dépourvue d'ambiguïté, je pense qu'il y aura un État palestinien qui pourra invoquer auprès de la communauté internationale son existence. Alors je commence par la question générale, la question de l'État comme entité qui est fondée sur les faits et sur le droit. Entendons-nous bien, ici nous parlons de l'État souverain, hein, parce qu'il y a, il peut y avoir des entités qui exercent des compétences étatiques, mais qui ne sont pas des États souverains. Quand on parle de l'État ici, donc nous nous référons à l'État souverain. Je pense que même la Cour internationale de justice l'a reconnu dans son avis consultatif sur la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas créer un État si cela est fait en violation des règles fondamentales du droit international contemporain. La Cour internationale de justice l'a reconnu. Les États qui invoquaient devant la Cour la création d'États comme un pur phénomène des faits ont dû par la suite même petit à petit reconnaître que le droit international intervient dans les processus de création d'États. Et je pourrais vous donner quelques exemples très clairs. La République turque de Chypre-Nord n'est pas un État. Le Somaliland n'est pas un État. Et par le passé, d'autres entités aussi qui ont prétendu être un État ne le sont pas. La Cour a dit une entité créée moyennant le recours à la force, donc une intervention armée étrangère, par exemple, ne peut pas prétendre Alexandre est un État, une entité qui est créée sur la base de la violation grave et massive des droits humains n'est pas un État, exemple la Rhodésie. Donc la Cour a retenu ces exemples, il pourrait y en avoir d'autres, je les pense, donc on ne pouvait pas créer un État au Kosovo parce que c'était à contraire à la résolution 1244 du Conseil de sécurité, mais je n'ai pas l'intention de rouvrir les débats sur le Kosovo ici, mais le fait est que le droit international joue un rôle fondamental dans les processus de création d'État. Et j'avais dit tout à l'heure, le Kosovo et la Palestine sont deux situations très différentes. Premièrement, parce que le peuple palestinien a droit à disposer de lui-même et par conséquent a droit à créer un État. La Cour internationale de justice, là encore, a reconnu que dans certaines situations, il existe un droit à la création d'un État. Et c'est le cas de la Palestine, incontestablement. Je pense que ce n'est pas le cas du Kosovo. Et en tout cas, on n'a jamais reconnu l'existence d'un prétendu peuple kosovar ayant droit à disposer de lui-même. Première différence de taille. Deuxième différence de taille, au Kosovo, il existe une administration internationale décidée par une résolution obligatoire du Conseil de sécurité qui reste toujours en vigueur, comme la Cour internationale de justice l'a reconnu dans son avis consultatif sur le Kosovo. Contrairement à cette situation, où il y a une administration internationale qui exerce des compétences sur le territoire du Kosovo, en Palestine, il y a une situation d'occupation militaire par un État qui n'a aucun droit d'être là. Et donc là, c'est une situation, c'est une différence de taille. Ce sont les deux différences, à mon avis, fondamentales qui doivent distinguer l'analyse lorsque l'on se réfère à la création d'États comme un pur processus de fait, le droit international joue un rôle, et dans les cas concrets de la Palestine, le droit international donne au peuple palestinien le droit à créer son État. J'ai dit que je pense qu'il n'existe pas encore un État palestinien. Pourquoi ? J'ai dit que la création d'État est un processus de fait et de droit. Quels sont les faits ? Mathias nous rappelait la convention de Montevideo qui n'a fait que répéter ce que la doctrine disait déjà à l'époque, et ces fameux trois éléments constitutifs plus un quatrième par ailleurs, la question de la reconnaissance sur laquelle j'imagine on reviendra tout à l'heure. Il est évident que pour qu'il existe un État, il faut qu'il existe une autorité qui exerce des compétences étatiques sur un territoire et à l'égard d'une population. Ces éléments d'effet sont présents, même si limités dans les cas de la Palestine du fait de l'occupation israélienne, mais à la différence de la déclaration de 1988 faite à Alger par le Conseil national palestinien, ici, nous avons une autorité palestinienne qui est sur le terrain, qui est sur le territoire et qui exerce des compétences étatiques à l'intérieur du territoire et à l'égard de la population qui s'y trouve. Donc, ces éléments d'effectivité sont là. Et si je voudrais un petit peu provoquer, je dirais que peut-être il y a plus d'effectivité dans les cas de la Palestine que dans les cas du Kosovo, parce que la Palestine est... Il y a l'élément de la reconnaissance, il y a la participation de la Palestine en tant que membre d'organisations régionales, et même partie en nombre important des conventions internationales. Donc les éléments d'effectivité sont là, l'élément de droit est là, il y a un droit du peuple palestinien à créer son propre État. Et je ne pense pas que le fait que la Palestine ait accepté en son moment les accords d'Oslo en 1993, la feuille de route en 2004, si ma mémoire est bonne, ce sont des éléments qui montrent que la Palestine avait accepté que le processus de création devait suivre certains pas, et devait se faire à partir des négociations avec Israël. Je pense qu'à partir du moment où les accords d'Oslo envisageaient une période de 5 ans pour arriver à une solution définitive, donc en 1993, nous sommes en 2011, la feuille de route prévoyait une période. C'était en 2003 et les statuts définitifs étaient prévus pour 2004-2005. Nous sommes en 2011. Donc, je pense que du fait de l'échec de toutes ces procédures, je pense que la Palestine peut aujourd'hui clairement déclarer qu'il est un État et le faire de manière unilatérale. Mais le fait est que la Palestine ne l'a pas encore fait. Et c'est la raison pour laquelle je considère qu'il n'existe pas encore un État palestinien. Tout reste entre les mains des dirigeants palestiniens. Alors, je disais tout à l'heure, il fallait sortir de cette ambiguïté. Pourquoi ? Parce que la Palestine agit parfois comme s'il était un État souverain. Donc, je vous rappelle que les récentes reconnaissances en tant qu'État de la Palestine, faites par un certain nombre de pays de l'Amérique du Sud, notamment, a été faite parce que l'autorité palestinienne a demandé, ou les dirigeants palestiniens ont demandé au gouvernement de ces pays de le faire. Ils ont déposé cette déclaration en vertu de l'article 12, paragraphe 3 du statut de la Cour pénale internationale, en invoquant donc le fait que c'est un État qui n'est pas parti au statut. Donc il y a cet agissement qui va dans le sens de l'existence d'un État, mais en même temps, il y a la participation aux négociations, aux processus ou aux tentatives de négociations qui devraient, en principe, aboutir à la création de l'État palestinien dans le cadre d'un accord de paix avec Israël. Donc c'est cette ambiguïté que je signale, et on ne peut pas prétendre être un État vis-à-vis un certain nombre d'États et ne pas accepter de l'être vis-à-vis d'autres. Donc je pense que la manière concrète pour que la Palestine devienne un État est tout simplement qu'il fasse cette déclaration et qu'il agisse en conséquence. Donc être cohérent avec ce que l'on dit, et par exemple qu'il aille aux Nations Unies, non pas pour obtenir une simple résolution de l'Assemblée générale, mais pour demander de devenir membre de l'organisation comme il est prévu à la Charte des Nations Unies. Ce qui exige, je le sais, ce qui exige bien entendu une recommandation du Conseil de sécurité. Donc je crois tout simplement que la Palestine, même si cela n'est pas du goût du gouvernement des États-Unis, encore moins du gouvernement d'Israël, doit mettre les États devant l'exigence de prendre position. Si, par exemple, les États-Unis d'Amérique, pour ne citer qu'un État, souhaitent opposer leur veto pour empêcher que le Conseil de sécurité recommande à l'Assemblée générale de devenir membre des Nations Unies, c'est le problème des États-Unis d'Amérique. Et donc, je crois que la question est là. Il y a les éléments de droit et les éléments politiques. Je pense qu'on ne peut pas prétendre être un État et en même temps ne pas gêner les États-Unis et mettre les États-Unis dans cette situation qui ne serait pas commode. Donc il faut agir de manière cohérente. Je dirais quand même un mot au sujet de la déclaration faite en vertu de l'article 12, paragraphe 3 du statut de Rome. Comme Mathias le rappelait tout à l'heure, il y a eu toute une série d'amici curie devant la cour en allant dans le sens de oui, c'est un État, non, ce n'est pas un État, ou au fin de l'article 12, paragraphe 3, mais seulement au fin de cet article, la Palestine devrait être considérée un État. Je pense que c'est très louable d'essayer d'obtenir que la Cour pénale soit compétente, notamment pour connaître des graves crimes qui ont été commis à Gaza il y a un an et demi ou deux ans. C'est très louable, mais en même temps, c'est forcé ce que le statut prévoit. Donc, il y a des exemples concrets en droit conventionnel qui montrent que lorsqu'on souhaite que des entités qui ne sont pas des entités souveraines puissent accéder à des traités, par exemple, il est prévu de manière explicite Et on dit, et il y a en effet des exemples dans lesquels des entités autonomes qui dépendent d'une autorité souveraine supérieure peuvent devenir parties, ou il y a des cas des organisations internationales qui peuvent devenir et jouir les mêmes droits et avoir les mêmes obligations que les États parties. Mais dans ces conditions, il y a une clause claire de la Convention qui prévoit cette possibilité. Ici, le statut de Rome parle simplement des États. Et je crois que nous devons, j'ai un point de vue différent avec Mathias sur cette question, je pense qu'on peut établir objectivement l'existence d'un État. Je pense que c'est même très grave de relativiser et de dire, bon, peu importe, tout le monde a raison, si vous estimez que c'est un État pour vous, ce n'est pas pour moi, et ainsi de suite. Je pense qu'il y a même des conséquences graves de suivre une telle approche, parce que si tout dépend de la perception individuelle que chaque État a, et donc si je ne reconnais pas mon voisin comme un État, alors, je pourrais dire, bon, puisque ce n'est pas un État, je n'ai pas les obligations que j'ai à l'égard des États. Et donc là, c'est grave en général, et c'est aussi grave en particulier pour la question israélo-palestinienne. Donc je crois que la reconnaissance faite par un nombre très, très considérable d'États à propos de la Palestine, beaucoup plus importante que pour le Kosovo, n'échange pas la donne. La reconnaissance ne peut pas créer l'État. La reconnaissance peut aider à la création de l'État. La reconnaissance peut jouer un rôle de preuve pour savoir s'il existe ou non un État. Mais la reconnaissance, elle, toute seule, ne peut pas le créer. Il y aurait plein de points à discuter, mais je pense que la question la discussion viendra après. J'ai fini tout simplement en rappelant ce que la Cour a dit dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques de la construction d'un mur en territoire palestinien occupé. Il a dit ceci tout à la fin de l'exposé des motifs, c'est-à-dire juste avant d'entamer le dispositif. Je cite. La Cour croit de son devoir d'appeler l'attention de l'Assemblée générale à laquelle cet avis est destiné sur la nécessité d'encourager ces efforts en vue d'aboutir le plus tôt possible sur la base du droit international à une solution négociée des problèmes pendants et à la constitution d'un État palestinien vivant côte à côte avec Israël et ses autres voisins et d'assurer à chacun dans la région paix et sécurité. Merci.
Merci beaucoup Marcelo. Je passe la parole.